Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Deuxième fin de semaine du mois d'avril 2024, ici Alex Bergeron, et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine après avoir vécu éclipse totale, du moins du côté de Sherbrooke. Québec, vous avez eu un extrait. Sherbrooke, on a eu la vraie affaire. Et la vraie affaire qui a duré un bon moment, comparativement à Montréal, que ça a duré à peu près une minute et quelques. Sherbrooke, on approchait du... 2 minutes, presque 3. Parce qu'on était pile poil dans la bande de la complète, de l'éclipse complète. Il a fait noir rapidement, en peu de temps. Le vent s'est levé. C'était momentanément la nuit. Et on s'est intéressé. Et c'est probablement l'une des analyses les plus intéressantes dans tout ça, là, parce que les. Bon. Évidemment, on cherchait à voir les réactions, à comprendre ce qu'il y avait à comprendre, à voir les réactions. Et l'une des analyses intéressantes qui a eu lieu. C'est passé du côté du zoo de Granby, où plusieurs chercheurs s'étaient donné rendez-vous pour un peu moins regarder l'éclipse et regarder la réaction des animaux. Et autant il y en a que ça les a perturbés, au sens où ça les a surpris, autant d'autres ont eu peu de réactions, voire aucune, et s'en sont presque un peu foutus. Le décor qu'on avait, c'était un peu au crépuscule, donc si la nuit venait de tomber, littéralement, donc en quelques secondes, on était rendu le soir. Et c'est ce que la plupart des animaux ont ressenti. Les animaux ont perçu la baisse de luminosité causée par l'éclipse comme le début du crépuscule. Donc, c'est le début de soirée. Un peu moins la notion du temps, certainement, que les humains, mais eux ont fait comme « Ah, c'est la nuit, on va aller se coucher. » Il y en a qui l'ont fait. Quelques minutes avant la totalité de l'éclipse solaire, les macaques japonais se sont regroupés au sommet des branches ou des roches dos au soleil et se sont recroquevillés comme ils ont l'habitude à l'approche de la nuit. Donc, vu qu'il y avait une baisse de luminosité, ils ont fait comme « Oh, la nuit arrive, on va aller se coucher. » Et pour avoir été à l'extérieur avant, personnellement, que l'éclipse commence, on voyait que la lumière était plus basse. Comme un gradateur de lumière à l'intérieur, on peut diminuer la luminosité. C'est un peu ce qui s'était passé avec l'extérieur. T'sais, il faisait un petit peu plus sombre tout en étant éclairé. C'est comme on tamisait la clarté. Et ce qui a été ressenti, évidemment, ben, c'est quand le soleil s'est momentanément éteint. Ben, tu te rends compte qu'il fait pas si chaud que ça, pas de soleil. Hein? Justement, ce contraste-là qu'il y a entre un 4 heures très ensoleillé et un 7 heures soleil couché. un après-midi d'été, on voit tout de suite la différence. Ben, c'était la même chose et ça a été instantané. Pour l'ambiance. Certains oiseaux, comme les autruches et les lophophores, qui ont montré davantage d'agitation car ils se sentaient plus vulnérables face à leurs prédateurs à la tombée du jour. C'est pour cette même raison que les zèbres se sont, quant à eux, mis à galoper et à hennir. Pour avoir entendu en entrevue Pierre Chassonnet, astronome et professeur de didactique des sciences à l'UQAM, qui a fait le tour des médias en entrevue cette semaine, les zèbres, pour expliquer un peu leur comportement, vu qu'ils étaient dans leur décor, en train de vivre leur journée, que en quelques secondes, ça tombait la nuit, bien, eux, normalement, ils sont censés aller se cacher avant que la nuit tombe pour justement ne pas être en danger. Leur instinct leur dit de « Ah, c'est la nuit, il faut que tu ailles te protéger, il faut que tu ailles te cacher. » Donc, pour eux, d'être un peu encore dans la nature, dans la savane, ben c'est pas bon signe. La nuit tombe, on est supposé être couché, caché, pour pas se faire attaquer durant la nuit, justement. Évidemment, il n'y avait pas de réel danger, mais c'est ça, c'est l'instinct animal qui a parlé. Et dans le cas des zèbres, ben eux, ils ont un petit peu moins aimé ça. On a entendu beaucoup de vocalisations d'un point de vue très anthropomorphique. C'est un peu comme s'ils se demandaient qu'est-ce qui vient de se passer. C'est comment ça, il fait noir soudainement. Une quinzaine de minutes après l'éclipse solaire, les animaux ont finalement tous un peu repris leur habitude comme si de rien n'était. Sauf erreur, c'était le panda roux, le petit panda roux qui, lui, n'a pas badré une seule seconde. Il a continué à faire ses petites affaires, puis c'est pas journée ordinaire au bureau. À noter que bon, le zoo de Grimby était d'ailleurs fermé pour la journée pendant l'éclipse, ce qui a justement permis d'un peu plus d'observer davantage les animaux dans leur milieu naturel, entre guillemets, comparativement s'il y avait eu peut-être d'autres humains autour d'eux qui, justement, eux, se seraient fascinés pour l'éclipse solaire, qui auraient eu des réactions. Parce que la plupart des images qu'on a vues lundi, c'était des gens qui réagissaient, puis « Oh mon Dieu! » et qui applaudissaient dans certains cas ou qui faisaient juste réagir à ce qui se passait. Bien, c'est sûr et certain que, entourés de tout ça, les animaux qui auraient peut-être été le plus près des humains au zoo, aurait peut-être eu des réactions différentes parce que, justement, il y a un autre personnage dans son habitat qui, lui, réagit. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Donc, peut-être que ça aurait pu biaiser certains comportements. Et c'est d'ailleurs ce qui avait été relevé pour d'autres études qui avaient été faites dans des zoos, connaissaient des phénomènes d'éclipse, que justement, que ça se pouvait. Ça arrive des fois, mais c'est sûr que ça n'arrive pas extrêmement souvent. Eux étaient arrivés à peu près à ces conclusions-là parce que, justement, les zoos n'étaient pas fermés, donc il y avait des humains autour, ce qui pouvait peut-être un peu biaiser la réaction de certains. Mais sinon, dans l'ensemble, on n'en a pas fait de cas. Ceux qui sont peut-être un petit peu plus vulnérables ont eu un peu peur ou s'en sont complètement foutus, comme le panda roux. C'est ce qui me faisait le plus rire là-dedans. Donc, comportement étrange, mais en même temps, il y avait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux qui circulaient de « Ah, mais là, que va-t-il arriver à vos animaux domestiques? Est-ce que votre chien, votre chat va avoir un comportement différent et tout ça? » Ben, si on se fie aux animaux de zoo, la plupart, ils n'en ont pas fait de cas. Les animaux domestiques, il est probablement arrivé la même chose. T'sais, ils n'ont pas eux-mêmes d'instinct le réflexe de regarder dans le ciel. Fait que quand même qu'il ferait noir soudainement et que ça se rallumerait, dans la plupart des cas, c'est bien rare que leur premier réflexe d'animaux va être de regarder dans le ciel, voir ce qui se passe, un peu comme nous autres, on le fait parce qu'on est au courant. Donc, il n'y avait pas tant de crainte que ça pour les animaux domestiques. Le pire qui pouvait arriver, c'est qu'ils décidaient d'aller faire un petit somme comme plusieurs autres animaux l'ont fait parce que, il fait noir, on va se coucher quelques minutes. Peut-être c'est le cas de certaines perruches qui ont fait un petit somme de quelques minutes. Mais encore une fois, c'est vraiment la bande qui passait bord en bord de l'Estrie, qui était le plus choyé en étant au Québec. Bon, à Québec en tant que tel, c'était beaucoup plus partiel. Même chose au Saguenay. On pouvait utiliser les lunettes, évidemment, pour voir les croissants qui manquaient, puisque la Lune passait quand même devant le Soleil, mais évidemment, c'était à moins grande échelle. Il n'y a pas eu de noirceur partielle, comme on a pu le voir, notamment ici à Sherbrooke ou à Mégantic, qui, eux, bon, l'observatoire du lac Mégantic, qui, lui, s'est retrouvé par une chance incroyable en plein milieu de l'éclipse, donc dans le milieu de la bande, donc un des meilleurs temps pour voir l'éclipse solaire, c'était à l'Observatoire du lac Mégantic, qui était pile au bon endroit sur, sur cette bande-là, cette fameuse bande qui passait bord en bord de l'Amérique du Nord, le Mexique, qui a débuté avec au tout début de cette bande avant de remonter les États-Unis pour arriver de notre côté de la frontière. Donc, c'est fait, on est passé au travers, on va finalement réussir à parler d'autres choses. Parce qu'on commençait à avoir fait le tour de tous les sujets, ça c'est le cas de le dire. Donc voilà, enfin terminé. Et sinon, si on peut rajouter un peu l'insulte à l'injure de toute cette histoire-là, et notamment... Et notamment, Pierre Chastonnay de l'Université du Québec à Montréal était particulièrement déçu et fâché de la décision qu'avaient donnée les gouvernements de protéger, entre guillemets, les enfants, de les confiner au gymnase et de regarder la Reine des Neiges, comme il l'avait dit si bien lui-même, les lumières fermées, les fenêtres de gym complètement couvertes dans certaines commissions scolaires, de mettre les enfants dos au mur pour qu'il n'y ait pas d'accident ou quoi que ce soit. Lui trouvait ça complètement aberrant. Effectivement, ça a été le cas. On avait certaines commissions scolaires qui avaient obligation de fermer. De fermer cet après-midi-là et ou de pour les élèves qui restaient à l'école, de les enfermer et qu'on ne leur donne pas accès à aucune fenêtre. C'était un peu le bordel dans les directives, puisqu'en plus, Bernard Drainville s'était contredit là-dedans. Donc, on avait un peu le free-for-all, alors que c'était activité libre. Je ne sais pas comment on pourrait traduire free-for-all, ceci dit, mais on est allé un peu du n'importe quoi. Et où l'insulte à l'injure est arrivée, et Bernard Drainville et François Legault se sont présentés dans des écoles primaires avec des élèves pour, eux, regarder l'éclipse, parce que ces élèves-là avaient obtenu des lunettes pour regarder l'éclipse solaire. Donc, comme énormément de professeurs de sciences l'ont dit, et Pierre Chastonnay également de l'Université de Montréal, ça aurait pu être une belle occasion pour apprendre, pour découvrir la science, mais on a donné une directive tout croche aux commissions scolaires pour leur dire « Ouais, ben, protéger les enfants ou retourner à la maison » dans une directive complètement non-objective et complètement absurde, alors que justement, il y avait même des professeurs qui préparaient ça depuis 2-3 ans. C'était la même chose à l'Astrolabe. On préparait ça depuis 3 ans parce qu'on connaissait la trajectoire de l'éclipse. Donc, plutôt que de profiter de cette journée-là, évidemment, ben, il y a certains enfants que leurs parents ont amenés avec eux à l'éclipse solaire, mais pour ceux qui restaient en classe... étaient confinés et où on les cachait de la terrible éclipse solaire pendant que et François Legault et Bernard Drainville étaient à l'extérieur d'école primaire pour eux regarder l'éclipse solaire comme si de rien n'était, comme si on n'avait pas dit à la moitié des écoles au Québec de ne pas le faire. Et même François Legault a déclaré On se trompe jamais quand on laisse les parents, les enseignants, les gens décider localement. On lui rappellera que son propre ministère de l'Éducation, on va pas tout à fait décider la même chose. On n'a pas une grande expérience des éclipses totales, donc il y en a peut-être qui ont trouvé le moyen d'avoir des lunettes pour tout le monde. Dans 82 ans, je suis certain qu'on va être mieux équipés. Ça, c'est Bernard, ça, c'est François Legault qui dit « Dans 82 ans, je suis certain qu'on va être mieux équipé. » Et Bernard Drainville, en étant dans une cour d'école, persiste et signe. Si c'était à refaire, ça serait la même décision. Moi, j'ai été très conscient. J'ai dit que j'avais une préférence pour que les écoles restent ouvertes. Okay. Mais ce qu'il fallait d'abord et avant tout assurer la sécurité des élèves. Et cette sécurité des élèves passait à les enfermer dans le gymnase et faire jouer un film pour être certain qu'ils ne regardent pas dehors. Complètement niaiseux. Pour pas dire d'autre chose. Et tout ça pour vraiment ne pas regarder l'éclipse entre 2h11 et 16h45. 14h11 et 16h55. 45, tout dépendamment des régions, bien sûr. Donc voilà. L'absurdité, quand il y en a, et quand on persiste et signe à rester simple, nous, on l'a fait de même en 2024, mais dans 82 ans, ils pourront faire ça comme qu'ils veulent, eux autres. Quelle belle conclusion, M. Legault. Félicitations. On s'arrête quelques instants. On retourne la suite du deuxième service, ici même, sur les ondes de CFA 80.3 et de Chiz 94.3. C'est Zoo Baby qui chante All Night Long sur les ondes de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3. Je l'avais dans la tête ce matin, fait que je voulais la réentendre. Projet de loi qui a été déposé ce mercredi, qui a des allures de bien faire, mais dans la pratique, comment sera-t-il appliqué? Là va être la question. Les citoyens qui intimident des élus municipaux au point de leur faire craindre pour la sécurité pourraient, d'ici quelques mois, être passible d'amende, comme le prévoit le projet de loi qui a été déposé par la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, ce mercredi. Le projet de loi 57 vise à protéger les élus. Sur papier, c'est bien. Mais qu'est-ce qui sera considéré comme de l'intimidation? Là, ça va être une autre paire de manches. Le texte rend passible d'une amende quiconque entrave l'exercice des fonctions d'un député en le menaçant, en l'intimidant ou en le harcelant, l'élu, de façon à lui faire craindre raisonnablement pour son intégrité ou sa sécurité. Les montants des amendes se situeront entre 500 et 1 500 Elles seront imposées aux récalcitrants par le corps de police municipaux ou par la Sûreté du Québec dans les plus petites municipalités qui n'ont pas leur propre service de police. Un nouveau régime de protection s'appliquera également aux élus qui siègent au Parlement. Le milieu municipal est toutefois particulièrement ciblé puisque des citoyens qui causent du désordre lors des séances de conseils municipaux s'exposeraient eux aussi à de nouvelles amendes allant de 50 à 500 $. On est allé au maximum qu'on peut aller, a déclaré la ministre Laforêt. On est allé très, très loin. Donc, évidemment, quand on a des segments comme informant municipal, des citoyens municipaux qui vont juste engueuler pour engueuler le maire de la ville ou un conseiller municipal pour que la chicane pogne, maintenant, ils pourraient recevoir des amendes entre 50 et 500 $, des menaces sur Internet contre la mairesse Plante ou Bruno Marchand, bien là, on va jusqu'à 1 500 $. Encore une fois, sur papier, c'est pas si mal. Ça a du sens. Mais qu'est-ce qui va être considéré comme de l'intimidation et du harcèlement et qu'est-ce qui va être considéré comme des menaces en l'air sans vraies conséquences et des choses comme ça? Évidemment qu'on va tenter de jouer sur cette carte-là. Ah, oh, j'ai écrit ça sur Internet, mais je le pensais pas pour vrai. Donc là, la ligne est quand même assez mince. Questionné sur la possibilité que des élus usent de ces outils pour museler des citoyens critiques, Parce qu'encore une fois, il y a une différence entre quelqu'un qui rentre au conseil municipal pour dire « t'es lettre, monsieur le maire », et une différence d'un député qui vient poser une question de « ouais, mais si vous voulez détruire ce parc-là, vous allez détruire telle affaire » et que « oh non, vous m'intimidez, vous êtes pas gentil, nanana », quand dans le fond, ils viennent exposer des problèmes pour vrai, voilà où la limite peut être franchie. La ministre Laforêt a dit avoir bon espoir que cela ne se produira pas. Encore une fois, on s'en remet au bon genre, on s'en remet au bon jugement des gens. Et si on a quelque chose de pas grand-chose en ce moment, c'est bien du bon jugement dans la société en ce moment. Son cabinet souligne en outre que les amendes pourront être contestées en cours par les personnes visées par les plaintes. Donc, on pourra aller aux petites créances pour négocier que non, 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 je ne faisais que poser des questions. Il y en a qui aimaient ça, beaucoup ça, dire ça pendant la pandémie. Je ne fais que poser des questions. Les citoyens vont toujours pouvoir se défendre, a-t-elle dit. On touche vraiment à des situations d'abus. Donc, réellement, c'est répété. Évidemment, ces personnes-là, on doit sévir contre elles. Mais la ligne est toujours mince entre quelqu'un qui vient juste réellement poser une question parce que concerné par telle ou telle situation et des gens qui vont chialer pour chialer. Le projet de loi prévoit aussi un mécanisme permettant le dépôt en Cour suprême d'une injonction pour mettre fin à des situations d'intimidation en ligne ou en personne. André Laforêt dit pointer tout comportement menaçant, harcelant, intimidant ou encore violent à l'endroit des élus. Encore une fois, ce bout-là est possible. Lorsqu'on lui fait remarquer qu'il était déjà possible de porter plainte à la police pour des menaces, elle a rétorqué que le projet de loi allait faire en sorte que ces dossiers seraient traités de façon urgente. Donc, pas comme une autre plainte à mettre sur le dossier, mais bien à enquêter sur le champ. La ligne des droits et libertés estime qu'il faudrait étudier ce projet de loi de près pour éviter des dérives. Le débat démocratique implique, à l'occasion des mouvements de contestation, certains bouleversements et dérangements. Prévient Laurence Guénette de la Ligue des droits et libertés, voilà. L'été dernier, la Ligue avait dénoncé la décision du maire suppléant de Trois-Rivières de suspendre une séance et d'appeler la police quand des opposants au projet du Carrefour 4055 sont venus se faire entendre en scandant un slogan et en brandissant une grande bannière. Elle est aussi préoccupée par le fait que la municipalité a dépêché un huissier chez une dame qui avait traité un haut fonctionnaire d'incompétent sur les réseaux sociaux. Donc déjà là, les risques de dérive sont déjà là. Qu'on vienne manifester pour dire qu'un projet n'a pas de sens. Dans ce cas-ci, Carrefour 4455, de ce que je comprends, ce serait une autoroute. Un peu comme le 1030. Donc, plutôt, ce serait probablement un complexe de magasins, le 4055 à Trois-Rivières. Si ça touche à des forêts, à des milieux humides, tout ça, c'est normal qu'il y ait des gens qui viennent manifester pour l'environnement. Mais de là à suspendre l'entièreté du processus et de faire comme « Non, on va continuer d'en parler juste quand vous serez parti. » Ça, ça regarde mal. Après ça, la dame qui fait juste dire « Je n'aime pas ce conseiller qu'on envoie la police chez eux », il y a des limites. T'sais, si elle avait écrit « Je le croise dans la rue et j'y casse les dents », peut-être que là, on peut envoyer la police pour poser des questions. Si elle fait juste dire « Il n'est pas très bon dans sa job », est-ce que ça mérite un appel au 911? La question se pose. Donc, voilà. Est-ce que c'est un projet qui va être sans faille? Évidemment que non. C'est sûr que non. Il va y avoir beaucoup de questions qui vont être posées. Est-ce que ça peut avoir un bien? Certainement. Parce que c'est vrai qu'on en voit de plus en plus des gens qui, grâce à des pseudonymes, grâce à des faux noms sur les réseaux sociaux, à des jeux de mots un peu douteux. On se cache derrière ces identités-là pour cracher son venin, pour juste mettre des insultes contre des personnalités tout en étant à l'abri, entre guillemets, parce que c'est pas son vrai nom, parce qu'on dévoile pas sa véritable identité, ça, évidemment, c'est inacceptable. Mais, encore une fois, il y a toujours un mais. Si c'est justement pour juste faire taire les oppositions, ou si c'est juste pour... pas créer une controverse, mais tu sais, pour empêcher le débat. Comme dans le cas de « il y a une bannière, on va aller se cacher en attendant que ça passe », ben ça, c'est des dérives qui sont un petit peu inacceptables. Donc, la ligne est mince. Quel encadrement va être fait? Comment va-t-il être fait? Ça reste à voir. Le projet de loi est évidemment à ses tout débuts, à ses balbutiements. On verra bien ce qu'il y en est. Est-ce que, comme à Sherbrooke, les deux députés femmes qui disent à une autre femme « Franchement, avec son bébé, puis elle repart tout de suite après. » Un autre gros débat qui s'est passé à Sherbrooke qui n'était pas particulièrement tendre pour la députée nouvellement maman. On en parle au retour. On en parle au retour parce que c'était particulièrement pas gentil. Mais est-ce que ça, c'est de l'intimidation? Est-ce que ça mériterait une contravention? La question est posée parce que la ligne n'est pas très claire. Mais disons que les deux autres députés qui en veulent à Laure parce qu'elle est venue pour un vote et qu'elle est repartie parce que c'est une jeune mère et il est 9h le soir. Il y a un gros point d'interrogation qui s'est posé au conseil de municipal ici à Sherbrooke cette semaine. On en reparle tout de suite après cette courte pause ici même sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3.
Directement de notre salle des nouvelles, voici ce que nous surveillons pour vous dans l'actualité. Audit lancé sur les ratés de Saclic par la vérificatrice générale du Québec. Enquête en cours sur la prétendue avocate favorite du Québec. Infestation de rats à l'hôpital Santa Cabrini à Montréal. Lancement de Québec Capital Climat à Québec pour lutter contre les changements climatiques. Discours sur les liens franco-québécois prononcé par Gabriel Attal. Nouveau raid israélien dans la bande de Gaza. Et au sport, le Canadien de Montréal se prépare pour son match de demain soir à Ottawa contre les Sénateurs. D'autres nouvelles dans une trentaine de minutes.
20 000 heures de solitude, Peter, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. À Sherbrooke, cette semaine, avait lieu le conseil municipal de la ville. Ben, il y en a chaque semaine, mais cette semaine, on votait pour la taxe piscine. Donc, un projet de loi qui allait faire en sorte que les propriétaires de piscines à Sherbrooke allaient devoir payer une facture de 80 $ par la poste si on détectait que vous aviez une piscine dans votre cour. Évidemment, le projet devait passer au vote. Le vote avait lieu cette semaine. Et la conseillère, Laure Le Tartre Lavoie, s'est présentée au conseil municipal pour voter en faveur de la taxe piscine avec son bébé d'un mois dans les bras. Évidemment, ça s'est terminé à 8-7. Donc, 7, dis-je bien. Si elle ne s'était pas présentée, ça aurait été match nul. 7-7. Et donc, la taxe piscine n'aurait pas été adoptée lors de cet actuel conseil de ville. Et pourquoi Mme Le Tartre Lavoie s'est présentée avec son bébé d'un mois dans les bras au conseil municipal? C'est parce que pour voter, précisément dans ce cas-ci, la loi ne permettait pas à Laure Le Tartre Lavoie de se présenter ou de voter à distance ou de se présenter en visioconférence. Donc maintenant que la pandémie est terminée, tous les députés se doivent d'être en présentiel pour voter, sinon on les compte comme ayant voté absent. Et dans le camp adverse, comme on n'était pas content que la taxe piscine ait passé, ben, en mauvais perdant, on a Annie Godbout, qui était aussi conseillère, a déclaré « Coudon, es-tu juste venu pour le vote? Parce que si c'était égal, ça aurait été rejeté. » Puisqu'évidemment, Laure Le Tartre Lavoie et s'est présentée pour voter, s'est levée pour voter pour, et a quitté par la suite. Parce que, on le rappelle, elle a un bébé d'un mois dans les bras. Évidemment, la mairesse, Évelyne Baudin, a rétorqué qu'il était normal qu'elle quitte de par sa situation familiale. La conseillère Nancy Robichaud s'est quant à elle questionnée sur la présence de la jeune mère. Honnêtement, ça aurait été plus normal qu'une maman avec un petit bébé d'un mois demeure à la maison avec son bébé. On voit que la force, ce que la force d'un parti peut faire. Parce que, évidemment, Mme Le Tartre se trouve à être dans le parti de la mairesse. Donc, c'est rien que pour ça qu'elle est venue voter. Elle est venue voter comme la mairesse. Mme Robichaud. Colin. En mêlée de presse, la conseillère Nancy Robichaud a expliqué avoir fait cette déclaration en réaction à celle de la mairesse. Ce qu'on a vu très bien, c'est qu'elle, Laure Le Tartre Lavoie, venait appuyer le parti pour un vote qui est crucial. Mme Robichaud a précisé qu'elle ne s'opposait pas à ce qu'une maire se rende au conseil. Si je vous dis que moi, dorénavant, je ne viens plus au conseil, sauf lorsque j'ai un rôle important, c'est un peu ordinaire en tant qu'élu. Je n'exerce pas vraiment mon rôle d'élu parce que ça me tient à cœur. Je viens parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, elle a laissé sous-entendre que Laure ne fait plus sa job de conseillère maintenant qu'elle est maman. C'est complètement absurde. Honnêtement, c'est... Ben, premièrement, c'est pas très gentil, on va le dire. Là, c'est vraiment... totalement gratuit comme commentaire de faire comme... Je veux bien croire que t'es pas contente d'avoir perdu contre le parti de la mairesse parce que ça s'est fini 8-7. Mais de là à prêter des intentions à la députée, à la conseillère qui vient uniquement voter parce qu'il faut qu'elle soit là, quand probablement, si elle avait eu l'option de pouvoir voter à distance en regardant, par exemple, le conseil municipal sur son ordinateur chez eux... elle l'aurait très certainement fait. Mais parce que la loi exige qu'elle soit en présentiel pour voter, ben c'est normal qu'elle doive se présenter. Et dans ce cas-ci, ben, elle avait probablement pas de gardienne ce soir-là. Donc, c'est pour ça qu'elle est arrivée avec son enfant dans ses bras. Fait que tu sais, je peux comprendre que c'est fâchant. Que la taxe, elle n'est pas d'accord avec ça. Elle a voté contre, c'est sûr. Mais la partie où j'embarque pas, c'est de publiquement être contre celle qui, parce qu'elle a un nouveau-né, ne devrait pas être là. T'sais, elle est soit conseillère municipale ou maman, sinon c'est parce qu'elle prend pas ça au sérieux. Vraiment. Et ironiquement, là-dedans, Laure Le Tartre Lavoie s'était présenté à Québec il y a quelques semaines pour justement demander un peu plus d'accommodement à Québec pour justement les nouveaux parents, les nouvelles mamans, les nouveaux papas, d'avoir des accommodements en tant que conseillers municipaux qui n'ont pas tout à fait autant de je ne sais pas si c'est de congé, mais bon, en tout cas, elle est, tu sais, d'avoir un certain backup. Et là, ça vient dans sa propre ville, dire qu'on, pour la conciliation travail-famille, dans son propre conseil, faire comme on le sait bien, elle vient juste voter quand c'est important, sinon elle vient pas. Franchement, quel commentaire mesquin. J'essayais de retrouver l'article bon, qui parlait de sa visite à Québec. Malheureusement, il n'est pas rapidement retrouvable. Ah voilà, février 2024. Donc, c'était il y a deux mois. Maire et conseillère municipale, deux rôles encore difficilement conciliables. Malgré le nombre grandissant de femmes sur la scène politique municipale, le réseau des jeunes maires au municipal, voilà, le RJMAM, demande au gouvernement québécois de réformer la loi pour garantir une meilleure conciliation familiale et professionnelle aux élus. Voilà pourquoi elle s'était présentée à l'Assemblée. Les élus qui adoptent un enfant ou qui donnent naissance ont droit de s'absenter jusqu'à un maximum de 18 semaines, héritage d'une loi sanctionnée en 1979. Et pas vraiment adapté depuis 45 ans. Je pense que nos lois sont dépassées et qu'elles sont prêtes à être modernisées. C'est ce que Laure Le Tarte-Lavoie, enceinte de 37 semaines en février, expliquait. À 32 ans, pleine d'énergie, malgré le dernier trimestre de sa grossesse, elle appréhende que les impératifs de son rôle d'élu s'accomplissent au détriment de sa vie familiale. J'ai mon scénario idéal. Si tout va bien, si mon bébé va bien, si moi je vais bien, si ma santé va bien après l'accouchement, elle pourra reprendre après, comme on le disait, 18 semaines. Si ça ne va pas bien, par contre, mon plan ne marche plus. C'est sûr que c'est anxiogène. Je n'ai pas de contrôle sur ce qui va arriver. Puis en plus de ne pas avoir de contrôle, je n'ai pas de conditions non plus. La fin des 18 semaines, elle va arriver vite. Ça fait juste un mois. Fait qu'on est en dedans de 4 semaines et déjà là, on a des critiques de l'opposition parce qu'elle vient juste voter quand c'est le temps que ça compte. Mardi matin, les 9 membres du réseau Pigé en fonction des contacts de la fondatrice ont présenté à la ministre des Affaires André Laforêt, encore une fois, 4 propositions favorisant la conciliation travail-famille des élus. Leur principale demande, bénéficier du régime québécois d'assurance parentale. Voilà l'expression que je cherchais, entre autres. Au même titre que les autres travailleuses, les 3 autres propositions du réseau visent surtout à rendre possible cette absence prolongée sans compromettre le devoir de représentativité des élus. Le RJMAM demande le droit des jeunes mères d'assister aux séances de conseil à distance, comme ça s'est fait pendant la pandémie. Il propose aussi que les élus partis en congé de maternité aient le pouvoir de déléguer leur vote à un autre membre du conseil municipal pendant leur absence. La loi ontarienne autorise depuis 2020 la délégation du vote et laisse chaque municipalité en déterminer les modalités. Donc, elle demande uniquement du bon sens, du gros bon sens, pour ne pas dire l'expression consacrée maintenant. Et comme par hasard, il y a de l'opposition à ce qu'elle a tenté de faire en étant de bonne foi, en disant « J'aurais pu nommer mon ami au conseil municipal qui aurait pu voter en mon nom et ou être sur une connexion Zoom et de dire « Je m'oppose » ou « Je vote en faveur ». Non, 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 il faut qu'elle vienne en présentiel parce que sinon, ça ne compte pas, elle compte comme étant absente. Donc voilà. Est-ce que si c'était allé du bord que la conseillère adverse aurait voulu, est-ce qu'elle se serait prononcée contre la députée Laure? On ne le sait pas. Mais là, ça donne qu'elle a perdu par une voix. Puis que là, elle vient juste pour voter. Assez mesquin. Bref, on s'arrête quelques instants. Au retour, la conclusion de l'émission cette semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ 80.3 et de CHIZ 94.3. Valence en musique sur les ondes de CFAQ 80.3 et de CHIZ 94.3. Conclusion cette semaine. Ça s'est passé aux États-Unis. Et ça fera certainement jurisprudence à Washington. L'article a été écrit à Washington. Les parents d'un adolescent américain qui ont été condamnés à perpétuité pour avoir tué en 2021 4 élèves dans son école secondaire avec une arme qu'ils lui avaient eux-mêmes offerte ont été condamnés ce mardi à une peine de 10 à 15 ans de prison, ce qui est une première aux États-Unis, d'où pourquoi la jurisprudence aura lieu. La mère Jennifer Crumbly, 46 ans, et le père James Crumbly ont été reconnus coupables d'homicide involontaire lors de leurs deux procès distincts en février et en mars cette année. Des condamnations inédites dans le pays pour les parents de tueurs. On le sait, aux États-Unis, les fusillades, il y en arrive trop souvent. On était déjà à peu près un petit peu moins d'une vingtaine, et on est seulement début avril. Depuis le début de l'année, on n'attend pas des parents qu'ils soient des devins, mais ces verdicts ne sanctionnent pas de mauvais parents. Ces verdicts confirment les actions répétées ou absence d'actions qui auraient pu arrêter une catastrophe imminente. C'est ce qu'a déclaré le juge du tribunal de Pontiac dans le Michigan. Voilà où ça s'est passé. Cheryl Matthews. Elle les a condamnés à la même peine de 10 à 15 ans de prison, moins les 2 ans et demi de détention préventive déjà effectuée. Ils encouraient une peine maximale de 15 ans de prison. La procureure lui avait demandé de prononcer les peines les plus sévères possibles contre les accusés en prenant en compte l'impact de leur négligence criante. Et effectivement, dans le cas de ces parents-là, c'était criant. Avant l'énoncé de la sentence, Jennifer Crumbly, comme James Crumbly, ont tenu à préciser, contrairement à l'impression qu'ils avaient pu donner lors des procès respectifs, qu'ils auraient agi différemment s'ils avaient eu connaissance des signes avant-coureurs. Évidemment, la défense a fait comme « Ouais, ben, on sent pas vraiment leur remords, plus de... Désolé, donc, s'est fait pogner. » Leur fils, Ethan Crumbly, 15 ans au moment des faits, avait tué deux filles, deux garçons âgés de 14 à 17 et blessé six autres élèves et un enseignant le 30 novembre 2021. Il avait sur lui un pistolet et 50 balles. Lors de son procès, Jennifer Crumbly avait témoigné et son mari avait rapporté quelques jours auparavant un pistolet Sig Sauer calibre 9 mm comme cadeau de Noël anticipé. Ah, les beaux cadeaux de Noël. Donc, il avait donné un cadeau de Noël ce gun-là. Elle avait raconté avoir emmené son fils à un stand de tir le lendemain de ce cadeau de Noël anticipé. Et que c'est généreux. Malgré une convocation des parents à son école secondaire le jour du drame, les enseignants leur conseillant de faire suivre psychologiquement leur fils après avoir découvert un dessin alarmant réalisé par l'adolescent, les parents étaient repartis sans ramener leur enfant à la maison. Évidemment, sur l'article, il n'y a pas le dessin, mais de mémoire, on voyait sur un examen de mathématiques une personne avec des trous dans le corps, la photo du pistolet qu'il avait reçu en cadeau, et il avait très clairement écrit « J'ai besoin d'aide ». Et ses parents n'ont pas cru bon de le ramener à la maison. Et qu'est-ce qui est arrivé quelques heures plus tard? Il a tué quatre personnes, il en a blessé sept autres. Mais les parents n'avaient pas vu les signes avant-coureurs. Mais ils dessinent sur ces examens des cadavres et l'exacte ou à peu près réplique du gun qu'il a en sa possession ou qu'il a facilement accès à. L'adolescent avait plaidé coupable en octobre 2022 d'avoir apporté à son école secondaire le pistolet et 50 balles dans son sac à dos, d'avoir tiré sur les élèves. En décembre, la mère d'une élève de 6 ans qui avait grièvement blessé par balle sa professeure d'école a été... OK, c'est un autre cas. OK, on donne d'autres exemples dans ce cas-là. Mais quand on dit que, justement, ils ne pouvaient pas prévoir d'avance, fine, mais qu'eux trouvent une bonne idée de donner un fusil à leur adolescent de 15 ans, d'aller pratiquer à tirer avec le nouveau gun le lendemain, et sans nécessairement avoir la preuve qu'il allait faire quelque chose, mais d'avoir des messages perturbants, au point que l'école appelle les parents pour dire « Ce comportement n'est pas tout à fait normal, vous devriez venir. » « Non, non, c'est correct, on viendra pas. » Pardon. Je veux bien croire l'amendement aux États-Unis qui donne le droit de se protéger. Il y a toujours bien des limites, là. Et dans ce cas-ci, parce que, justement, l'inaction des parents, quand il y avait très clairement des signes avant-coureurs que quelque chose n'allait pas, quand leur enfant écrit en très gros sur l'examen de mathématiques « Je ne vais pas bien », mais qu'en plus, les parents font rien, c'est normal, dans ce cas-ci, qu'ils soient eux aussi accusés là-dedans. Parce que ne serait-ce que de ne pas y avoir donné accès à un gun aussi facilement, ça aurait déjà peut-être pu prévenir quelque chose. Non, ils ont donné, puis on va aller le pratiquer en plus. Complètement absurde. Mais dans ce cas-ci, justement, comme c'est la première fois que ça arrive, ça ne sera pas impossible que lors des prochaines fusillades, si justement des armes sont facilement accessibles dans les maisons ou justement qui ne sont pas verrouillées comme elles devraient l'être. Donc, l'enfant n'a pas accès facilement à des armes pour tirer sur d'autres élèves. Bien, ce cas-là pourrait se répéter. D'autres parents pourraient être accusés de négligence, comme dans ce cas-ci. Et heureusement, d'une certaine manière, que quelqu'un a jugé bon de faire comme... C'était écrit, littéralement, que cet enfant-là n'avait pas bien. Et vous, vous avez trouvé le moyen d'y donner une arme qu'il s'est servi, bien évidemment. Donc, au moins, justice a été rendue. Mais encore une fois, c'est un cas assez spécial puisque ça n'était jamais réellement arrivé aux États-Unis avant ça. C'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. C'est des choses qui arrivent, c'est des semaines comme ça. Mais c'était quand même assez particulier comme nouvelle, donc... valait la peine de le rementionner quand même. C'est là que ça se termine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service, ici même sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. Restez bien branchés sur vos ondes respectives. À la semaine prochaine. Salut.